droit au quotidien, votre magazine de promotion et de vulgarisation du droit. Présentation Aoussi Potin.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à cet autre numéro de votre magazine Mon droit au quotidien. Nous avons l'habitude d'utiliser soit un ordinateur, soit un téléphone mobile ou encore d'autres appareils électroniques. Des usages qui nous exposent à ce que l'on nomme aujourd'hui la cybercriminalité et de facto l'on parle donc de cybersécurité. Vous aurez donc deviné, amis auditrices, auditeurs, nous parlerons aujourd'hui de cybercriminalité et de cybersécurité. Dans quelques instants, j'aurai le plaisir de vous présenter mon invité. Dans l'attente, soyez les bienvenus toutes et tous à ce top numéro 2, Mon droit au quotidien.
Deux fois par semaine, rendez-vous pour découvrir vos droits et devoirs dans Mon droit au quotidien.
Mon invité de ce jour est une dame. Avec beaucoup de plaisir, nous la recevons parce que ce n'est pas courant de recevoir les dames sur Mon droit au quotidien. Pas de notre fête, mais bien des fois, pas évident de les avoir comme invités. Mais en tout cas, très heureux donc de recevoir aujourd'hui une dame, une tête, comme on dit, bien faite aussi. Docteur Tano Bien-Janine. Bonjour docteur.
Bonjour.
Alors, une tête bien faite, bien pleine aussi. Vous êtes docteur en droit public, enseignante-chercheur à l'université Félix Fouet-Boigny de Cocody à Abidjan et spécialiste surtout sur les questions de cybersécurité et de fiscalité. C'est bien cela?
C'est bien cela.
Merci d'avoir accepté notre invitation, docteur Tano Bien-Janine.
Merci à vous de me recevoir.
Comme je l'indiquais tantôt en introduction, nous parlerons donc aujourd'hui, pour nos auditrices et auditeurs, de cybercriminalité, surtout en nous basant donc sur la loi numéro 2013-451 du 19 juin 2013, mais aussi de cybersécurité, parce que la criminalité entraîne toujours un besoin de sécurité. Alors, pour une bonne compréhension de ces deux termes, nous allons partir d'abord de leurs définitions respectives. Lorsque l'on parle de cybersécurité, de quoi s'agit-il, docteur Tano Bien-Janine?
Alors, merci de me recevoir en Radio de la Paix. Alors, quand on parle de cybersécurité, c'est l'ensemble des politiques, des mesures, des mécanismes, des actions qui vont être mises en place pour assurer la sécurité dans l'espace cyber. Et quand on prend l'espace cyber, il faut savoir qu'il y a non seulement le système d'information qui est lié à l'ordinateur, mais on a aussi tout ce qui est réseau numérique, tout ce qui est canal digital, donc qui va appeler les tablettes, les téléphones, qui va appeler tous les outils qu'on va utiliser, en tout cas en lien avec le digital et le numérique. Donc ça, c'est l'ensemble des politiques et des mécanismes quand on parle de cybersécurité.
Comme je l'indiquais tantôt, et si l'on parle de sécurité, c'est qu'il y a une menace sur la sécurité. De facto, c'est quoi la cybercriminalité?
Alors, de facto, la cybercriminalité, on va dire, c'est l'ensemble des infractions qui sont commises par le réseau numérique ou via le réseau numérique ou contre les systèmes d'information. Donc, vous allez voir que souvent, on va vous parler d'intrusion frauduleuse, on va parler d'atteinte au système d'information, on va vous parler de maintien frauduleux, on va vous parler d'atteinte à la disponibilité, à l'intégrité, à tout ce qui est en rapport avec la confidentialité des informations qui transitent via nos réseaux numériques.
Docteur Tano Bien-Janine, je voudrais préciser à l'endroit des auditrices et auditeurs qui nous suivent que nous vous recevons parce que nous allons nous focaliser pour ce numéro-ci. Nous aurons l'occasion de vous retrouver dans un second numéro que nous allons rendre plus pratique en répondant à des questions courantes en matière de cybersécurité. Pour ce premier rendez-vous, nous allons surtout parler de la cybercriminalité.
Tout à fait.
Et le prétexte tout trouvé à notre niveau, c'est la loi numéro 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. Alors, en général, lorsque l'on parle de cybercriminalité, comment celle-ci se manifeste? En d'autres termes, quels sont les actes posés qui rentrent dans le domaine de la cybercriminalité?
Alors, tout à l'heure, je parlais d'intrusion frauduleuse. Il faut savoir que quand on parle de cybercriminalité, c'est le fait que quelqu'un rentre dans votre système d'information sans votre autorisation. C'est prévu par la loi. Vous allez voir, par exemple, en prenant les dispositions de l'article 4 jusqu'aux articles 36, qu'il y a plusieurs types d'infractions et ces infractions-là sont classées par groupe. Donc, vous pouvez très bien aller... je vais donner des exemples pratiques à chaque fois. Vous allez avoir, par exemple, quelqu'un qui va faire une opération de mobile money ou bien même un transfert d'argent et qui va retrouver ces informations-là qui vont être détournées. Ça, c'est un autre type d'information. Donc, on peut détourner des informations. Le fait que quelqu'un rentre dans un système sans autorisation et qu'il efface une partie de ces informations-là, donc je vais parler d'informations et de données, le fait d'effacer des données, c'est un acte de cybercriminalité. Le fait de voler ou de dérober des données, c'est un acte de cybercriminalité.
Sans autorisation
de la personne. Quelquefois même, Pire, vous pouvez avoir l'autorisation. Imaginez-vous, vous êtes un agent qui reçoit des informations, vous devez les traiter. Vous les traitez, mais vous les détournez de leur finalité, ce pourquoi on les avait collectées. Vous êtes en train de commettre un acte de cybercriminalité. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs types de manifestations qui vont rentrer en ligne de compte. Et ces derniers temps, on a entendu parler de détournement de données de la banque, par exemple, sous condition de récupérer les données en versant une rançon. C'est ce qu'on appelle le rançongiciel. Ça, c'est encore un autre type de criminalité. Donc, au fur et à mesure, on va monter en graduation dans les niveaux de cybercriminalité.
C'est vrai que le rançonnage par voie électronique est très courant maintenant, récurrent dans le monde en général.
Tout à fait.
Il y a même des groupes spéciaux créés qui sont prêts à rançonner les grandes firmes internationales.
Tout à fait. Il faut savoir que la cybercriminalité, c'est quand même une criminalité qui est organisée. Et de la même manière que nous mettons en place des dispositifs pour parer à cette criminalité-là, les personnes s'organisent. Au début, on avait des personnes qui se mettaient en groupe, qui faisaient des petits vols, qui détournaient des petites informations. Au fur et à mesure, l'information est monnayable. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que la donnée, c'est l'or de ce siècle. Sous prétexte que vous avez des informations qui sont importantes, qui ont fuité, on vous met la condition de récupérer ces informations-là en versant de l'argent. Donc, vous allez voir qu'au fur et à mesure, en fonction de l'importance, ça va être monnayé de manière très graduelle.
Alors, intéressons-nous, docteur Tano Bien-Janinet, au cas de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a une idée de l'étendue de la cybercriminalité aujourd'hui en Afrique? On va dire, mais surtout en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on a une idée en termes de données?
Oui, on a une idée parce qu'on va dire que ce sont des informations qu'on arrive à chiffrer en termes de pertes. Il y a récemment une étude qui disait qu'on est à peu près à 3,6 milliards de pertes financières liées à la cybercriminalité. Et ça, ce sont que les entreprises. Donc, vous imaginez, pour la Côte d'Ivoire, par an.
C'est énorme.
C'est énorme. C'est vraiment énorme dans la mesure où on se rend compte que de plus en plus, toutes les informations que nous possédons ont de la valeur.
Exactement.
Et de plus en plus, vous allez voir que ces derniers temps surtout, je vais prendre l'exemple de l'Union africaine
qui a été piratée
dans son système d'information au cours d'une grande réunion, d'un sommet. Et ils se sont rendus compte qu'il n'était pas possible d'avoir accès aux ordinateurs. Donc, vous imaginez avoir une grande réunion et être privé de l'accès aux ordinateurs, c'est vraiment colossal.
C'est ça. Donc, une institution comme l'Union africaine, c'est déjà
énorme. Tout à fait. C'est même arrivé dans chacun des pays. On a vu l'exemple de la Banque du Mali, dont les données ont été piratées. Donc, c'est pour vous dire que ça prend de plus en plus de l'ampleur et il faut vraiment qu'on s'y intéresse.
Si vous venez de vous connecter sur la fréquence de la paix, Radio de la paix, vous êtes au magazine Mon Droit au quotidien. Aujourd'hui, nous parlons donc de cybercriminalité, de cybersécurité, en compagnie de Dr Tano Bien-Janine. Elle est docteur en droit public, enseignante-chercheure à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan. Elle est surtout spécialiste sur les questions de cybersécurité et fiscalité. Nous la recevons donc ensemble pour répondre à quelques interrogations portant sur ce domaine.
Mon droit au quotidien, votre magazine d'information pour connaître et comprendre vos droits et devoirs sur la fréquence de la paix.
Retour à vous, docteur Tano Bien-Janine. Tout à l'heure, vous donniez un aperçu de l'étendue donc de la cybercriminalité en termes d'impact financier en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, des milliards de francs CFA par an. Alors, face à cela, en 2013, la Côte d'Ivoire donc s'est dotée de la loi numéro 2013-451. Du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité. Alors, qu'est-ce que cette loi a apporté de nouveau dans la lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire?
Avant de répondre, je vais faire un petit rappel historique.
Allez-y, je vous en
prie. On va dire que les opérations qui sont relatives à la cybercriminalité avant n'étaient pas qualifiées comme telles. C'est-à-dire que la loi est venue poser un cadre. Donc, avant la loi de 2013 jusqu'en 2012, on va dire 2011-2012, nous n'avions pas de cadre légal. Donc déjà, le premier apport de cette loi-là, c'est de venir poser le cadre. Poser le cadre légal, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on va définir des infractions qu'on va pouvoir sanctionner. Sachez qu'on est en matière pénale et s'il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'infraction. Alors, cette loi-là, est le premier apport, comme je disais, c'est de poser le cadre légal, c'est de pouvoir définir les infractions, de déterminer tous les éléments qui sont constitutifs, non seulement les éléments matériels, mais aussi les éléments intentionnels. Vous voyez qu'à chaque fois, on va vous dire intention frauduleuse, parce qu'on doit déterminer la fraude qui est organisée, parce qu'on veut mettre quelqu'un en erreur, par exemple. Donc, elle va poser le cadre, elle va permettre surtout aux juridictions, ceux qui doivent appliquer la loi, de pouvoir avoir matière pour pouvoir trancher sur ces questions-là. Parce qu'avant ce texte-là, il était impossible de poursuivre quelqu'un sur la simple base du vol. Vous ne pouvez pas me dire que j'ai volé puisque vous n'avez même pas les éléments qui constituent le vol en question. On va vous dire que c'est sur le numérique, il n'y a pas de trace.
Rien ne qualifie le type de vol.
Voilà, rien ne qualifie jusqu'au bout. Parce que même si vous avez volé quelque chose, vous ne pouvez pas en rapporter la preuve. Et donc avec cette loi-là, on va avoir une incrimination, on va avoir des infractions qui sont posées, qui sont claires, qui sont définies. On va avoir un cadre légal, mais aussi on va avoir un cadre de protection. Parce qu'il faut savoir que la loi sur la répression de la cybercriminalité est une loi qui est la sœur jumelle de la loi de protection des données à caractère personnel. Donc on pose un cadre de protection et puis un cadre de sanction.
D'accord, donc ce n'est pas seulement pour sanctionner, mais aussi c'est pour prévenir, et puis protéger.
Voilà.
Dans le cas d'espèce, il y a deux articles extraits de cette loi qui ont retenu mon attention, parce que ça porte sur les enfants, les jeunes. J'ai voulu vous soumettre ces deux articles et puis... vous allez nous les expliciter. Il s'agit donc des articles 17 et 18 de la loi numéro 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité. Et ces deux lois stipulent respectivement, et je vais les citer in extenso. C'est d'abord chapitre 3, intitulé « Infractions spécifiques aux technologies de l'information et de la communication ». L'article 17 dit ceci. Est puni de 1 à 3 ans d'emprisonnement et de 20 millions à 40 millions de francs CFA d'amende. Quiconque possède intentionnellement une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile dans un système d'information ou dans un moyen de stockage de données informatiques. Ça, c'est l'article 17. Et l'article 18 dit ceci, est puni de 1 à 5 ans d'emprisonnement et de 20 millions à 40 millions de francs CFA d'amende. Quiconque facilite l'accès à des images, des documents, du son ou une représentation présentant un caractère de pornographie à un mineur. Alors, si on parle chaque fois de pornographie infantile ou de pornographie à des mineurs, mais on voudrait que vous puissiez nous expliciter ces deux articles, surtout pour nos auditrices et auditeurs.
D'accord. Alors, il faut savoir que c'est des domaines qui sont très sensibles. Il y a des personnes, malheureusement, qui vont s'adonner à des exactions sexuelles sur les enfants et qui vont mettre en scène... justement, ces actions-là, en leur conférant un caractère obscène de manière à pouvoir, on va dire, satisfaire en griffe certains fantasmes et qui vont les filmer, qui vont les conserver, qui vont les transférer, qui vont les garder, qui vont même les utiliser pour faire du chantage. Par exemple, avec le think tank IADA, on a mis en place une bande dessinée justement pour sensibiliser sur ces questions-là. Mais je vous assure qu'on a été choqués de discuter avec des enfants qui nous disaient « Non, mais il y a un tonton qui m'a appelé, il m'a dit si je monte par exemple la poitrine de ma grande sœur, je peux avoir 10 000 ».
En Côte d'Ivoire ici.
On était quand même dans un village, on s'est dit, mais c'est pas possible. Bon, ok, ils ont accès au téléphone, donc ils peuvent se retrouver avec d'autres personnes en ligne sans le savoir,
via les réseaux sociaux.
Et souvent, ça part de la naïveté qui est exploitée. Et donc, ces articles-là, justement, sont là pour encadrer ce genre de comportement, pour éviter, justement, que les enfants déjà ne se laissent avoir. Parce que vous savez que souvent, il y a des petits besoins, on peut les mettre en avant. C'est comme ça que les cybercriminels procèdent. Ils ne vont pas venir comme des personnes méchantes. Ah non, ce serait pas facile.
De façon subtile, au
fait. Voilà, de façon très subtile. Donc, le fait, par exemple, de capter ces images-là peut leur permettre de faire après du chantage. Et quand on vous dit des enfants, ça peut être des personnes qui sont jeunes, qui sont mineures. Elles peuvent avoir 15 ans, 16 ans. Et après, il y a du chantage derrière. Sachant que ce n'est pas forcément des inconnus. C'est souvent des personnes proches. Qui sont proches,
d'accord.
Qui peuvent utiliser ces images-là. Et ces dispositions sont là pour dire à ces personnes qui le font, attention, si on se rend compte que vous êtes en train de poser ce genre d'acte, vous pouvez être poursuivi, bien sûr, si on rapporte la preuve. Voilà encore un autre, on va dire un autre secteur qui est délicat. Cas, mais si on appréhende un ordinateur qui comporte ces images de nu, d'obscénité, on peut poursuivre la personne.
Alors, Dr. Tano, bien Janine, est-ce que là aussi on ne pourrait pas interpeller nos auditrices auditeurs qui nous suivent en ce moment pour faire preuve de beaucoup de prudence? Parce qu'aujourd'hui, l'un des réflexes en Côte d'Ivoire, c'est de toujours donc transférer, partager les images, les sons qu'on reçoit Donc, parlant de cette pornographie infantile, il faille pas faire attention pour ne pas se retrouver complice. Lorsqu'on reçoit des images peut-être d'enfants dénudés, peut-être faut les effacer. C'est pas nécessaire de les partager.
Voilà, c'est pas nécessaire de les partager. Voilà.
Soit totalement nu, mais peut-être dénudé. Déjà, ça s'appelle de la pornographie infantile.
C'est déjà un risque parce qu'on ne sait pas qui peut tomber sur ces images, qui peut les utiliser, à quelle fin est-ce que elles peuvent être utilisées. Donc, je pense que c'est vraiment l'occasion de demander aux parents, à tous ceux qui sont éducateurs. Quelquefois, c'est pas forcément les parents, les oncles, les tantes, de faire attention. On a une tendance à tout partager. Il y a des gens qui sont sensibles. Il faut faire attention. Il faut faire attention aussi souvent à nos nounous, à qui nous confions nos enfants, qui des fois partagent en se disant qu'elles font du bien. Il faut faire attention à tous ces comportements que nous avons là. Et c'est vraiment l'occasion de dire aux personnes qu'il ne faut pas exposer vos enfants. Même si vous avez l'impression que ce sont des images innocentes, il faut faire attention.
Exactement. Mais aussi interpeller les parents, un droit de regard sur ce que vos enfants consultent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils font sur leur portable, la tablette,
oui. Mais avec qui ils parlent et comment ils échangent. Parce qu'il y a des enfants qui ont été enlevés justement en échangeant avec des personnes qui croyaient être quelqu'un de bien, qui leur envoient des histoires, qui vraiment dans la subtilité, il faut faire attention. Il y a ce qu'on appelle le contrôle parental qui peut être mis non seulement sur ce que les enfants regardent, et puis il faut aussi regarder avec nos enfants ce qu'ils font. Souvent, ils vont avoir l'impression que vous les surveillez, mais c'est votre rôle. C'est votre rôle d'éducateur, c'est votre rôle de parent, c'est votre rôle de ceux qui doivent les protéger. Et il faut faire vraiment attention aux échanges, à ce que nos enfants regardent, à ce que nos enfants partagent et à ce qu'ils se disent aussi entre eux. Parce que souvent, c'est par les amis que ça passe, c'est par les copains, les petites copines. On ne se rend pas compte, on se dit qu'on est à l'ère du temps, on est dans la modernité, mais il y a quand même des valeurs à préserver.
Vous êtes bien sûr sur Radio de la Paix. Le temps qui se coule actuellement s'écoule dans le cadre du magazine Mon Droit au quotidien. Nous parlons donc aujourd'hui de cybercriminalité et de cybersécurité. Notre invitée est une dame, docteur Bien Janine. Elle est docteur en droit public, enseignante-chercheure à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan. Et elle est spécialiste sur les questions de cybersécurité et fiscalité. Docteur Tano Bien, Janine, dans le dernier virage donc de cette émission, je précise pour nos auditrices et auditeurs que c'est le premier rendez-vous. J'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver donc la semaine prochaine. Merci. Nous parlerons la semaine prochaine de cybersécurité et cybercriminalité aussi en dessous, en abordant des questions pratiques. Voilà, certaines questions que les auditrices et auditeurs se posent, ça sera pour la semaine prochaine. D'accord. Mais déjà, pour revenir donc à nos échanges portant pour ce numéro, ce rendez-vous sur la loi numéro 2013-451 du 19 juin 2013, relative donc à la lutte contre la cybercriminalité. Alors, il y a aussi l'article 36 de la dite loi, relative donc à la cybercriminalité, dans son chapitre 4, intitulé « Atteinte à la propriété intellectuelle », qui dit ceci, et je cite, « Le titulaire d'un service d'accès à Internet ou à tout réseau de communication électronique est tenu de veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins manifestement illicites, notamment de reproduction, ou de représentation d'œuvres de l'esprit sans l'autorisation de leurs auteurs ou leurs ayants droit. En cas de non-respect de cette obligation, il peut être poursuivi pour complicité par fourniture de moyens. Alors, je vous avoue que lorsque j'ai lu cet article-là, j'ai pensé à nos années universitaires, où nous avons donc beaucoup de photocopieuses.
Tout à fait.
Et lorsqu'on donne les ouvrages, bon, on n'a pas l'argent pour payer. Oui. Alors, question ? Est-ce qu'on doit comprendre, docteur Stado Bien-Janine, à travers cet article-là, que les photocopies d'ouvrages, romans, livres et autres œuvres de l'esprit tombent sous le coup de cet article?
Alors, c'est interdit. C'est vrai que c'est délicat parce que quand vous n'avez pas...
Donc, je
sais exactement de quoi vous parlez. On peut avoir à reproduire les ouvrages. C'est vrai que c'est marqué que la photocopie tue le livre, mais quand on n'a pas suffisamment de moyens et qu'on veut quand même accéder à la connaissance, on va faire un grand pas. Il faut savoir que ce qui ici est relevé, c'est le fait de ne pas commercialiser ou de ne pas les utiliser à des fins illicites.
D'accord.
Quelqu'un qui est en train d'apprendre, il n'est pas dans, dans les fins illicites. Ça devient une infraction ou un problème dès lors que la personne sait très bien que c'est un ouvrage qui se vend par exemple à 5 000 francs. Il fait des photocopies Et puis, il va vendre à un prix dérisoire, mmh. alors que ce n'est pas lui qui a produit l'ouvrage. Là, il y a déjà une atteinte à la propriété intellectuelle. Mmh. Si, par ailleurs, il s'en va utiliser ses photocopies qu'il émet, par exemple, sur un site en libre accès, alors que la personne qui a produit le livre a quand même des droits qui sont attachés, là, ça devient problématique. On va rentrer maintenant dans ce qui est appelé, ce qui est illicite. Mmh. À un autre niveau, si c'est utilisé à des fins de malversation ou de tromperie. Là, on va rentrer maintenant dans le cadre de la cybercriminalité. Par exemple, l'article 35 vous dit « L'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit peut faire obstacle à la copie de l'œuvre en limitant le droit de copie reconnu par la présente loi. » C'est-à-dire que quand vous produisez le livre, si vous voyez que, par exemple, on est en train de photocopier 1000, là, vous vous dites « Non, c'est pas possible. Vous êtes en train de porter un droit à ma production. » D'autant plus que quand j'ai produit... J'ai acheté des droits pour que ça me soit réservé, que ça soit protégé. Vous êtes en train d'enfreindre l'exercice de mon droit. Donc là, je ne suis pas d'accord. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de conditions qui rentrent en ligne de compte avant que ça ne passe vraiment le cap de l'illicite et que ça soit une infraction.
On va résumer un peu. Donc c'est très sensible là-dessus. Là.
Okay.
Donc c'est quoi le seuil du licite et de l'illicite?
Alors,
dans le cas que j'ai pris.
Dans le cas que vous avez
pour
pris.
Résumer, voilà.
Si vous êtes en train de photocopier pour des personnes qui sont, par exemple, des étudiants, il n'y a pas de difficulté. On va dire que ce n'est pas illicite en soi. Mais si vous êtes en train de photocopier pour aller revendre par derrière à un prix moindre que la production initiale, là, on rentre dans l'illicite. Et si vous l'utilisez à des fins malveillantes, voilà, dans ce cadre-là, on va maintenant rentrer dans tout ce qui est cybercriminalité. Donc, imaginez-vous qu'on produit un ouvrage et puis vous utilisez, vous sortez une partie du contexte que vous mettez, je dis n'importe quoi, dans un film de meurtre et que vous voulez utiliser ces éléments-là pour justifier le meurtre que vous êtes en train de commettre. Là, vous rentrez dans l'illicite et vous rentrez maintenant dans la cybercriminalité, par exemple.
D'accord. L'honnêteté intellectuelle aussi exigeant que nous puissions donner toujours la source.
Pas
de
citer l'extrait, il faut mettre des guillemets. En tout cas, à chaque fois que vous allez utiliser un ouvrage qui a été produit par un auteur, l'idéal serait que vous citiez l'auteur pour qu'il sache que voilà, c'est pas vous qui avez donné l'idée ou qui avez produit l'ouvrage.
Très bien. Docteur Otano, bien, Janine, nous vous remercions déjà de votre disponibilité. Nous allons terminer avec une dernière interrogation de façon pratique. Comment est-ce qu'on peut se protéger contre la cybercriminalité? Vraiment, vos conseils d'usage, avant que nous nous retrouvions la semaine prochaine, pour entrer dans des questions encore d'autres pratiques aussi.
Alors, de façon pratique, il y a beaucoup de choses à faire.
On va déjà, donner quelques grands
quelques
accès.
Oui. Déjà, par rapport à la personne, moi, qu'est-ce que je fais quand je vais dans des endroits? Est-ce que je fais attention à qui je photographie? Où je me photographie? Où est-ce que je partage? Comment je partage? Est-ce que quand je reçois, par exemple, des mails, je clique systématiquement ou je vérifie l'origine du mail? Est-ce que je clique systématiquement sur toutes les publicités que je reçois, sachant que dans les publicités, nous avons souvent des bannières qui viennent de manière intempestive et qui nous demandent, par exemple, quand nous allons sur un site, on nous demande d'accepter ce qu'on appelle les cookies, les petits gâteaux qui sont là pour nous décrire.
On en parlera la semaine
prochaine. Et ça, est-ce que je le fais? Donc ça, d'accord, il faut faire attention. Et comment est-ce que je gère des informations qui me sont données quand je suis dans une entreprise? Si, par exemple, je gère une entreprise et que je reçois des informations, je collecte plus que je dois ou bien je collecte juste ce dont j'ai besoin pour le service que je propose en question. Donc voilà un peu la manière de se protéger. Il faut faire attention à ce qu'on publie. Il faut faire attention à ce qu'on partage. On ne fait pas des statuts à tout va. Il faut faire attention aussi aux réseaux sur lesquels nous allons.
Déjà, voilà, que nous sommes dans une société maintenant qui est abonnée au buzz.
Au buzz, voilà.
Bon. Et aussi, il y a la fréquentation des cyber.
Des cyber.
Qui existe toujours.
Oui.
À ce niveau, c'est très prudent.
Oui, il faut être prudent parce que quand vous allez dans les cyber, n'oubliez pas de vous déconnecter de votre boîte mail. Si vous avez déposé, par exemple, un document à photocopier, n'oubliez pas d'effacer, mettez votre document dans la poubelle et vous effacez aussi dans la poubelle. Ça prend du temps. Mais c'est important pour pouvoir assurer sa protection déjà à la base.
En tout cas, merci beaucoup, docteur Otano Bien-Janine, pour ce premier rendez-vous. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine.
D'accord.
Voilà, nous allons nous retrouver dans la semaine prochaine pour répondre cette fois-ci à des questions que les auditrices et auditeurs se posent généralement en matière de cybercriminalité, de cybersécurité.
D'accord.
Je voudrais déjà vous rappeler, pour ceux qui nous ont suivis avec beaucoup d'attention, je n'en doute point, que vous êtes donc docteur en droit public, enseignante-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan et spécialiste sur les questions de cybersécurité et fiscalité. Merci à nouveau, docteur Tano Bienjanine. Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Voilà. Quant à vous, mes auditrices et auditeurs, nous vous disons merci de votre belle écoute, de votre fidélité donc à votre magazine Mon Droit au quotidien. Rendez-vous est pris donc pour la semaine prochaine. Nous parlerons de façon pratique de comment est-ce que vous pouvez vous protéger en matière de cybercriminalité. Et nous répondrons à des questions que vous posez souvent, comme par exemple, que faire si ma page sur un réseau social est piratée? Ou encore, que faire quand mon compte bancaire a été prélevé alors que je n'ai pas eu à utiliser ma carte bancaire? Ça, c'est pour la semaine prochaine. Dans l'attente, portez-vous bien toutes et tous dans la bonne connaissance de vos droits et devoirs.
C'était Mon Droit au quotidien, votre magazine de promotion et de vulgarisation du droit. Présentation à Aoussi Boutin.